L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM géographique. La géographie, c'est la vie, notre vie quotidienne, notre passé qui s'inscrit dans la physionomie de notre territoire, ses paysages, ses aménagements, la répartition de l'habitat et des différentes activités. Tout ça est le produit d'une évolution, de réflexion ou pas. C'est même le fruit parfois d'une idéologie. Un géographe pense donc à la fois géologie ou topographie, mais il pense aussi histoire, politique, économie. Et c'est bien le cas d'Yves Le Bailly que nous avons enregistré il y a quelques jours et que nous vous proposons d'écouter en deux épisodes, aujourd'hui et demain. Yves Le Bailly est donc agrégé de géographie, ancien professeur d'école normale à Vannes, par ailleurs ancien enseignant du master professionnel d'aménagement maritime et littoral à l'Université de Bretagne Sud de Lorient. Il a bien sûr écrit pour faire part de ses recherches et de ses analyses. Bonjour Yves Le Bailly.
Oui, bonjour madame.
Vous aviez publié « Où va la Bretagne ?», coécrit avec Jean-Claude Leruyer aux éditions Scolvraise. Et c'est aux mêmes éditions qui est parue cette année « Défi pour la Bretagne », avec peut-être davantage de solutions proposées. Dans « Où va la Bretagne ?», vous évoquez les dérives de la société bretonne. Est-ce que vous pouvez revenir déjà sur ce qui vous paraît le plus actuel, ce qui vous inquiétait et ce qui vous inquiète encore ?
Alors, tout d'abord, c'est pas uniquement ces deux ouvrages. J'ai participé à des ouvrages antérieurs sur l'aménagement de la région, mais là, il y a une trilogie. On a, en l'espace de 4 ans, publié 3 ouvrages : Réunifier la Bretagne, Où va la Bretagne, Défi pour la Bretagne. Et en fait, les deux derniers ça aurait dû être un seul et même ouvrage qui était en que j'avais à l'esprit depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années. Mais les événements ont fait qu'on a précipité les choses dans la publication et on a séparé les deux. C'est un tout. C'est le produit d'une réflexion que j'ai sur la région depuis le temps que j'y travaille. Parce que dès l'âge de mes 18 ans, j'ai eu des enseignants qui étaient membres du CELIB qui m'ont sensibilisé à cette question de...
Alors le CELIB, il faut peut-être dire ce que c'est.
Le Centre d'études et de liaison des intérêts bretons, hein, qui est structure multipartie et multisyndicat, qui touchait pratiquement toutes les couches de la société bretonne, qui prend naissance en 1949, sous l'impulsion de Joseph Martrey, et qui est une structure qui, au-delà des clivages politiques, posait la question de l'avenir de la région.
C'était un super réseau breton, pourrait dire ça comme
exactement,
ça.
Exactement. C'est une superbe dynamique de survie de la région auquel on fait toujours référence, que plus personne n'arrive à reconstituer, et qui a permis à la Bretagne d'être vivante, d'avoir une sorte de sursis d'une cinquantaine d'années dans, la cohésion sociale et économique de sa société. Ça, c'est... Et malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive plus à la reconstituer.
Ça, c'est déjà un point d'inquiétude.
Oui, c'est terrible. Terrible. Bon, il y a bien des volontés qui émanent de différents courants, de retrouver cette dynamique. Mais les intérêts individuels et partisans qui sont maintenant la règle dans nos sociétés ne permettent plus cela.
Et en 50 ans, vous avez donc mesuré des évolutions, vous avez constaté des évolutions. Ouais. Et lesquelles sont les plus inquiétantes pour vous ?
Ça fait partie un peu de la première interrogation que vous vous posez. Comment a évolué cette société et qu'est-ce qu'on peut retenir ? Qu'est-ce qui m'inquiète le plus ? Je crois que... Je reviens au CELIB, justement. Si le CELIB a pris naissance en 1949 et puis plus officiellement l'année suivante, c'est parce qu'il y avait un constat qui avait été établi par les responsables politiques de la région. Constat qui était le suivant. À l'époque, un tiers d'une génération quittait la région pour chercher du travail. Et à l'époque, dans les années 50, dans l'immédiate après-guerre, il n'y avait qu'une destination possible, c'était la région parisienne.
Est-ce que c'est toujours le cas ?
Alors, le plus terrible, c'est que ce qui a motivé la naissance du CELIB est aujourd'hui existant également. Mais plus personne ne bouge. Et je dirais que depuis une vingtaine d'années, au moins le milieu des années 2000, vers 2004-2005, quand les chiffres de prospective de l'INSEE ont donné des horizons de population sur les échéances 2030-2040, il y a eu tout un discours très positif, très optimiste sur l'avenir de la région, d'une région qui était dynamique, parce qu'elle se peuplait, parce qu'on allait atteindre bientôt la barre des 5 millions d'habitants, etc. Et c'était bien orchestré par nos représentants politiques. Et ça, ça m'a révolté, parce que la réalité est tout autre. Un tiers d'une génération, aujourd'hui, est amené aussi à quitter la région pour trouver du travail. Mais ça ne choque plus personne, parce que dans cette économie mondialisée qui est la nôtre, la mobilité fait partie des règles du jeu. Bon, mais vous regardez une pyramide des âges de la Bretagne, et le Télégramme, la semaine dernière, a ressorti une pyramide. C'est intéressant, là j'en avais mis une dans ce petit ouvrage.
C'est l'INSEE qui faisait son bilan démographique, je crois.
Oui, mais l'INSEE ne sortait plus de pyramide ces dernières années. J'ai ressorti ce type de graphique qui est très parlant. Parce qu'en un clin d'œil, on voit bien que ça ne va pas. Hein.
C'est le champignon, c'est ça un peu.
Quand on a une pyramide qui est à la base qui est aussi rétrécie, hein, et quand surtout on constate que dans les tranches d'âge de 15 à 40, 45 ans, il y a des creux énormes, on se dit mais la population là n'a plus de vitalité du tout.
Donc si la Bretagne, en fait, sa population augmente, mais ce sont des gens de l'extérieur d'un certain âge, en fait.
Voilà, c'est ce que je dénonçais dans cet ouvrage, qui était un état des lieux, où va la Bretagne. C'est qu'on peut avoir une dynamique démographique, effectivement, mais comment est-elle constituée? Et en analysant les chiffres le plus précisément, comme le fait l'INSEE, on se rend compte que le solde naturel n'alimente pratiquement plus la croissance de la région, simplement pour 0,2% par an. Que ce solde naturel est essentiellement concentré sur Rennes et Nantes, mais que les autres parties du territoire ont des soldes naturels qui sont négatifs. Le Finistère, c'est moins 0,7% actuellement. Les Côtes d'Armor, je ne sais plus, c'est moins 0,4%. Le Morbihan, qui était encore, quand j'ai sorti l'ouvrage, juste à la limite, est maintenant passé en négatif. Et donc, la Basse-Bretagne est en train de plonger démographiquement, n'a pas de renouvellement de génération. Et l'ensemble de la Bretagne, dans son ensemble, de même, hein, puisque sur les 0,7% de croissance démographique actuelle, on n'en a que 0,2% lié au solde naturel. Le reste de la dynamique, c'est les apports migratoires, et qui ont comme caractéristique d'être pour moitié constitués de flux de population de plus de 45 ans, 50 ans.
Et pourquoi ce solde naturel négatif et ces départs de jeunes, c'est lié à quoi?
Tout simplement à la situation économique.
Le fait qu'il n'y ait pas d'emploi. Pourtant, on a l'impression que la Bretagne est une région qui crée de l'emploi. Il y a finalement un taux de chômage assez faible par rapport aux autres régions. Tout ça, c'est des trompe-l'œil.
Alors, vous mettez le doigt sur aussi un faux problème ou une fausse explication. Le taux de chômage, effectivement, il est un des plus faibles de France aujourd'hui, des régions françaises, autour de 0,8, un peu moins de 0,8% de la population active. Mais n'importe qui et tout étudiant en géographie qui se respectait quand j'étais moi-même étudiant savait qu'un faible taux de chômage pouvait avoir deux explications. Soit effectivement un marché du travail resplendissant, soit le fait d'appartenir à une zone migratoire qui fait que les demandeurs d'emploi ne sont plus dans la région mais vont ailleurs et apparaissent dans les bilans des agences de l'emploi des autres régions. C'est le cas de la Bretagne. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre. Il a fallu que je me chamaille avec des journalistes pourtant régionaux, des grands quotidiens, pour faire comprendre cela.
Et qu'est-ce qui nous manque alors? C'est un tissu de PME?
Qu'est-ce qui nous manque? Bien, si on regarde bien, on parlait du Célib. Dans le Célib, enfin, l'idéologie du Célib constituait à recréer une vie économique sur la région. Et ça a pu se faire, d'ailleurs, dans les années 70, par des transferts d'entreprises, ce qu'on a appelé les politiques de délocalisation. Et, d'une certaine manière, les années 70, sans avoir été totalement faste et porteuse des espoirs qu'on y avait mis, ont permis quand même un décollage de l'industrie agroalimentaire, qui constitue le tiers des emplois en Bretagne, direct ou indirect, une certaine activité industrielle liée aux délocalisations Et la Bretagne, qui en 1960 avait un taux d'industrialisation relativement faible, hein, qui était de l'ordre de, je ne sais plus, 17-18%, avait pu remonter un taux d'emploi industriel de 24%, ce qui était la norme à l'époque, hein, au niveau national et dans les pays développés. Aujourd'hui, ce taux d'emploi industriel, il est retombé à ce niveau de 17%.
Un peu comme partout en France, en même temps.
Comme partout en France. Alors, c'est lié au fait que les emplois secondaires ne sont plus considérés comme des emplois porteurs, mais c'est lié aussi à l'effondrement d'un certain nombre de branches économiques qui avaient pu prendre naissance ou forme dans les années 70 et qui, aujourd'hui, sont réduites quasiment à néant. L'agroalimentaire a suivi la chute du monde agricole. Certes, elle reste encore très productive, mais on n'a plus la même quantité d'agriculteurs qu'à cette époque-là. On n'a plus que 30 000 exploitations agricoles en Bretagne. Et encore, on considère que c'est moins de 25 000 qui sont aujourd'hui véritablement performantes. Il n'y a plus d'industrie de transformation. Les grandes branches de la construction navale, de l'industrie automobile, de l'électronique, ou bien ont disparu ou bien sont en crise. Et aujourd'hui, nous sommes dans ces économies perverses d'activités tertiaires et quaternaires qui font rêver tous nos hommes politiques, mais qui ne font pas vivre la population. Parce que tout le monde ne peut pas être ingénieur, cadre supérieur, etc. Et c'est là le drame. C'est-à-dire qu'on a retenu du panorama économique que les activités les plus gratifiantes et les plus porteuses, certes, elles font partie de la notion de développement de nos sociétés dites développées, mais il faut alimenter ces fonctions-là. Et seuls des emplois plus, excusez-moi le terme, mais plus subalternes et plus pragmatiques sont nécessaires pour faire fonctionner tout ce système. Emploi des activités primaires, emploi des activités secondaires. Si on n'a pas les deux, on n'aura pas le troisième, à moins d'avoir une économie complètement extravertie. Et c'est malheureusement ce vers quoi nombre de nos hommes politiques aujourd'hui rêvent.
Ça veut dire quoi ?
Ce pourquoi ils rêvent. Eh bien, regardez les emplois qu'aujourd'hui on propose à la Bretagne. Et c'est des emplois de chercheurs. Hein ? Alors, dans l'agroalimentaire, dans les cultures marines, enfin dans tout ce qui gravite autour de la mer, hein, dans l'énergie. Mais ce n'est pas des emplois qu'on a à l'appel. Et même quand on les a, l'exemple de l'électronique en Trégor est très révélateur. Eh bien, ces emplois ne arrivent pas à tenir.
À Lannion, vous parlez
de
Lannion.
Oui, je pense à Lannion, par exemple. Mais Lannion est un cas emblématique depuis que ça a été créé. C'est un lieu performant sur le plan de la recherche qui n'a jamais su générer une filière industrielle. Parce que dès que on invente des process nouveaux ou des matériaux nouveaux, et Lannion est en cela à l'origine de beaucoup de choses extraordinaires, hein, les écrans plats liquides, la transmission asynchrone, le Minitel précédemment, la transformation industrielle ne s'opère pas sur nos territoires. À une époque, elle s'opérait vers l'Allemagne et l'Europe. Maintenant, c'est vers les pays du sud-est asiatique. Et donc, la stratégie des multinationales qui contrôlent ces secteurs font qu'aujourd'hui, on a des concurrents, y compris en matière de recherche, dans ces pays.
Alors, vous liez aussi parmi les inquiétudes qui sont sans doute liées à ce que vous dites, il y a l'aménagement du territoire, enfin la métropolisation. En quoi c'est lié déjà à ce qu'on disait, enfin ce que vous disiez sur le tissu économique.
Alors la métropolisation, c'est quelque chose contre lequel je me bats depuis longtemps. Au début des années 2000, on n'était que trois géographes en France à s'opposer à cette lecture-là qui était...
C'était le début.
Maintenant, fort heureusement, je crois que le discours a été intégré et il circule beaucoup maintenant sur la contestation de cette métropolisation. C'est un mythe. C'est le mythe qui est le résultat de nos économies transactionnelles ultralibérales. C'est-à-dire qui part du principe que seule la mobilité sans contrainte des hommes permet de s'intégrer dans le marché global qui est celui de la planète aujourd'hui. Et que pour s'y intégrer, il faut chercher le niveau le plus élevé de compétence, de compétitivité. Pour cela, il faut chercher des gens très formés, donc une élite. Pour attirer cette élite, il faut lui faire des ponts d'or, c'est-à-dire lui offrir un cadre de vie mirifique, agréable, liant environnement culturel et environnement paysager de qualité. Et voilà, rien n'est trop beau pour cela. Alors, ça part du principe que pour résister à la concurrence internationale, donc il faut entrer dans cette logique-là. Ça a été développé par les commissions Balladur, c'est en 2014, et puis repris par Sarkozy, puis par Hollande, etc. Et c'est devenu le vadémécum de nos hommes politiques, pensant que la survie à la crise, eh bien, passait nécessairement par ça. Or, peut-être, je ne critique pas tous les aspects de cette métropolisation, mais ce qu'on n'évoque jamais, c'est les externalités négatives du processus.
Lesquelles ?
Ils sont multiples. C'est d'abord une ségrégation sociale effarante, y compris au sein des métropoles, parce que, et ça a été très bien démontré par un géographe qui s'appelle Christophe Guillouis, parce que rendre service à ces populations d'élite, ça veut dire aussi des emplois subalternes, mais qui ne peuvent plus suivre le rythme de la spéculation foncière et immobilière que génèrent les concentrations métropolitaines actuelles. Donc, du coup, ça conduit à des ségrégations internes à ces métropoles sur le plan spatial, entre les quartiers.
Les ghettos, quoi.
Les ghettos, exactement. Avec éviction des classes moyennes et populaires des quartiers qu'elles avaient créés dans les périphéries de centre dans les années 50, 60 jusqu'à 70. Et Rennes, sur ce plan, est très emblématique de ce qui s'y passe. De ce qui se passe. On pourra y revenir si vous voulez. D'autre part, eh bien, ça conduit à une évacuation de ces catégories moyennes et inférieures sur les périphéries, dans des couronnes qui sont d'autant plus paupérisées qu'elles sont éloignées.
Hein et les aujourd'hui, mouvements pendulaires.
Et d'où les mouvements pendulaires, d'où ces problèmes de circulation, d'où ces, des clivages territoriaux monumentaux.
D'où l'impact du prix du carburant.
Voilà, et ça a conduit à cette révolte des Gilets jaunes. Mais dire que la révolte des Gilets jaunes n'est liée qu'à ça, ce serait une erreur. Mais en tout cas, elle est alimentée par ces ruptures spatiales qui s'opèrent au sein des villes et au sein des territoires. Et en Bretagne, très nettement, mais c'était apparu dès 1990. J'avais été là aussi dans un ouvrage de géographie et aménagement de la Bretagne qu'on avait sorti en 1993. J'avais été le premier à souligner cette ligne de fracture qui commençait à s'opérer entre Dinard et Lorient.
Ah oui, parce qu'on constatait ça
Déjà, on pouvait constater ça, oui, à l'époque.
À Dinard ?
Oui, une diagonale qui prend en écharpe la Bretagne sur cet axe-là.
Ok, donc là, c'était l'Ouest-Bretagne.
Basse-Bretagne et Haute-Bretagne, plus une partie du littoral morbihanais.
Et donc, toute la Haute-Bretagne se métropolise depuis longtemps autour de Rennes, en fait.
Tout à fait.
Enfin, Rennes-Nantes, de l'axe Rennes-Nantes.
Ça a commencé dans les années 70.
On peut dire...
Sans le savoir. Et malheureusement, et c'est là que c'est une belle leçon de l'histoire, en partie à cause du célib.
C'est malin.
Non, mais je m'explique. Le célib, dans ses dynamiques urbaines des années 70, pour éviter le départ des jeunes vers la région parisienne, avait comme idée de renforcer les agglomérations de Rennes et Nantes, à mi-chemin entre les deux, de façon à bloquer les phénomènes migratoires. Et la croissance de ces deux villes a explosé à partir des années 70. Quand j'étais enfant, Rennes, c'était une ville de 50-60 000 habitants.
Voilà. Petite ville de province.
Ouais. On allait dans les rues, on rencontrait les voisins de l'autre coin du département, on se connaissait, on parlait pachu, et on était dans un grand village. Pour moi, la rupture, elle est apparue au début des années 80, le jour où je n'ai plus entendu parler gallo dans les rues de Rennes.
Et la métropolisation, on pourrait se dire, quelque part, il va falloir, comme la population augmente, même si, comme vous dites, elle n'augmente pas énormément en Bretagne, mais elle augmente. On ne peut pas encourager éternellement l'étalement urbain ou le mitage du paysage pour des raisons d'artificialisation des terres, par exemple.
Ah,
donc, il faut bien qu'on concentre les populations.
Alors, là, vous entrez dans le jeu d'un autre débat qui qui est effectivement inhérent à la concentration humaine, à la concentration métropolitaine ou simplement urbaine. C'est-à-dire que si les villes avaient connu une croissance normale, on ne serait pas face à la gestion de tels flux de population et de telles consommations d'espace. Mais c'est le propre de l'économie transactionnelle et de cette économie libérale, ça a été celle de spécialiser les espaces. À un espace, une fonction. Alors qu'autrefois, quand on entrait dans une ville, dans un village, tout était lié.
Vous voulez dire le fait de faire des zones commerciales, par exemple, autour
des
villes?
Moi, j'ai vécu mon enfance, il y avait un café à côté de la maison, d'un côté, et de l'autre, la forge, en cœur de bourg.
En pleine ville.
Ça ne gênait personne que les agriculteurs viennent ferrer leurs chevaux à 6h du matin et que la forge se mette en route. C'était un jeu normal qui faisait partie de la vie sociale et qui était toléré par tout le monde. Aujourd'hui, ce serait infaisable.
C'est ce que j'allais dire. Maintenant, il y aurait des conflits d'usage pas possibles entre ceux qui veulent dormir, qui travaillent de nuit.
Exactement. Et donc, à partir des années 80, quand les croissances urbaines se sont développées, bien, on a été dans cette politique très, très rationnelle et à la française d'un territoire, une fonction. D'où l'étalement. D'où des zones commerciales aux sorties de ville, d'où des zones artisanales qui ne pouvaient plus s'insérer dans le tissu d'habitat, etc. Et ainsi, peut-être on a gagné en rationalité fonctionnelle, mais on a perdu en sociabilité et en qualité de vie, d'une certaine manière. Parce que ces lieux-là, moi, mes lieux d'enfance, on jouait là. On jouait dans le garage, on jouait à la forge, c'était des espaces ouverts quand nous étions enfants. Bon, et en ville, il y avait exactement les mêmes choses. Quand je suis arrivé à Rennes dans les années 60-70, on allait dans le centre de Rennes, il y avait les ateliers. De la même manière. Donc il y avait cette mixité fonctionnelle qui donnait le sens à la ville et à la vie. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus ça. Alors, pour revenir à votre question sur la consommation d'espace, c'est une grande partie, cette consommation, elle est liée à la croissance non maîtrisée de cette métropolisation et même, je dirais, encouragée de cette métropolisation, parce que plus il y aura d'habitants, plus on pense que les connexions entre systèmes économiques se feront, ce qui n'est pas prouvé. Deuxième chose, eh bien, on pensait, alors le deuxième aspect de la théorie, que c'est la vieille concept ultra-libérale
La
richesse agglomérant sur un territoire, on pense qu'elle va se diffuser par osmose sur les territoires périphériques. Bien sûr que non. Et là, que j'avais inclus dans cet ouvrage, Où va la Bretagne, je ne sais pas si vous l'avez vu, du Commissariat général à l'égalité des territoires, une étude de 2017, démontrait bien que sur toutes les métropoles qui avaient été définies par la loi, eh bien, très peu avaient cette capacité de ruissellement, que celle de l'Ouest, Rennes et Nantes, l'avaient un peu, mais quand on analysait vers où se dirigeaient les flux, pas vers la Bretagne, dans les territoires à mi-chemin entre Paris et ses métropoles. Donc, en fait, cette théorie du ruissellement, elle est caduque.
Ça ruisselle, mais pas localement, en fait. C'est ça, un peu la question.
D'abord, ça ne ruisselle pas beaucoup.
Ouais.
Beaucoup de métropoles n'ont aucun ruissellement. Et quand ça ruisselle pas là où on voudrait que ça ruisselle, si j'ose dire.
D'accord. Bon, alors ça ne marche pas.
Donc, ça ne marche pas. Et du coup, on a les défauts, mais pas les avantages. Et pour revenir à votre question de la densification, comme on voit bien que cette consommation du foncier devient problématique, bien que font les métropoles pour avoir plus de monde? Elles densifient. Hier après-midi, j'étais dans des quartiers du nord-ouest de Rennes et j'étais effaré. Là où il y avait des boulevards qui étaient des grandes zones d'aération à double voie, on supprime les voies pour ne les réduire qu'à une voie minimale, tout juste bonne pour les bus, et on construit des immeubles, véritables murs, sur les autres parties de l'espace public. Et ainsi, la ville se densifie. On parle même à Rennes de véritables canyons urbains. Ces rues qui sont entre deux murs qui s'élèvent à des hauteurs de 4-5 étages. Donc on est là dans une ville qui d'abord perd tout son sens, parce que la ville, par définition, c'est d'abord un espace public de convivialité, qui, sur le plan architectural et urbain, urbanistique, pose problème, et qui, en plus, ne se prépare en rien aux mutations climatiques à venir. Parce que cette densification est complètement contraire à ce, qui devrait être fait pour résoudre les problèmes d'élévation de température sur des espaces bétonisés.
Ah oui, parce qu'on ne végétalise pas, c'est ça que vous voulez dire.
On ne végétalise pas. Alors que la ville devrait s'ouvrir, s'aérer, se végétaliser, on est en train de la refermer sur elle-même dans le béton.
On va étouffer. Alors,
après, on va faire de l'esthétique, on va faire de l'agriculture urbaine sur les toits, on va verdir les façades. Mais c'est une immense... Excusez-moi, mais...
Vous n'y croyez pas à l'agriculture urbaine, enfin...
Non, c'est sûr. Ouais. C'est complètement con. Comme... Analyser le mot.
Oui, agriculture urbaine.
On est dans une société où on peut tout faire techniquement. Comme le disait un de mes professeurs de géographie lorsque j'étais étudiant, si on veut, on fait pousser des bananes à carré. Il disait ça en 1968. Bon, mais à quel prix?
Oui, c'est trop cher, en fait, c'est ça.
À quel prix? La vraie question, elle est là. Laissons aux campagnes cette activité productive. Protégeons les terres pour que cette activité productrice se perpétue et limitons la taille de la ville, tout simplement.
Demain, dans la première partie de l'EM, la suite de cet entretien avec le géographe Yves Le Bailly, et nous aborderons avec lui les pistes à suivre pour rassurer l'avenir de la Bretagne.